Clé en main, une émission qui chaque mois nous permet d'aller plus loin sur l'actualité, l'histoire récente. Alain Romestan, bonjour. Aujourd'hui, en direct de la Maison de l'Amérique latine à Paris, je reçois Atis Luna Vega Valdés pour la sortie de son film « Ceiba, mémoire d'une famille cubaine ». Dans Clé en main, nous avions reçu, il y a quelque temps, Zoé Valdés, écrivaine cubaine connue et reconnue mondialement, sa mère, qui nous avait parlé de son pays Cuba et de son exil en France. Atis Luna, bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs ne vous connaissent pas, une petite biographie s'impose. Qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle Atis Luna, je suis née à La Havane en 1993. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Et je réalise des films, je rappe. Et voilà.
Alors, vous êtes réalisatrice, nous parlerons tout à l'heure de votre film « Ceiba », mais vous avez déjà produit, comme vous venez... de nous parler de rap, vous avez aussi produit un court-métrage de fiction qui s'appelle Slam. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce court-métrage de fiction ?
Oui, alors il est en développement, donc il n'est pas encore, réalisé. Donc c'est un récit en trois parties du point de vue du personnage de Maya. Donc la première partie, c'est une rencontre amoureuse, la deuxième partie, c'est un avortement, et la troisième partie, c'est une scène ouverte de Slam à Belleville. Donc c'est un court-métrage de fiction qui est en développement.
Vous êtes dans des études de cinéma, si j'ai bien compris.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont ces études et quelles ont été vos études avant ce que vous faites à l'heure actuelle ?
Actuellement, je suis à Paris 8, donc je suis en master de réalisation et création. Et avant ça, j'ai étudié à Paris 3 le cinéma. Et j'ai aussi étudié au Chili, à Valparaíso, les arts.
Donc vous vous destinez à une carrière dans le cinéma ?
Oui.
À quel niveau ? Réalisation, production, comédie ?
Réalisation de documentaires et de fiction.
D'accord.
Et mon grand rêve, c'est de réaliser un film du livre de ma mère.
Et de quel livre, si c'est pas indiscret, parce que c'est peut-être en projet, donc je veux pas m'immiscer trop.
le néant quotidien ou le paradis du néant.
D'accord. Livre qui est là aussi mondialement connu et qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc ça serait intéressant en effet qu'il puisse être traduit sur l'écran. Alors vous êtes aussi musicienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pera, qui a reçu un prix à Marbella? Votre goût pour le rap, nous écouterons d'ailleurs dans l'émission le splendide morceau « Mémé » que j'ai pris plaisir à écouter et à faire écouter. Donc le rap pour vous, qu'est-ce que c'est? Et Pera, qu'est-ce que c'est?
Pera, c'est mon premier EP de rap que j'ai produit avec Sinca. Pour moi, le rap, c'est une... C'est l'écriture, quoi. Donc, c'est une manière pour moi de m'exprimer, de me lâcher. Et cette EP, c'était quatre chansons, un condensé de choses que j'ai pu écrire à l'adolescence et plus tard.
Vous pensez rap en même temps vidéo. C'est pas uniquement, si vous voulez, au niveau musique. Dans ce que vous avez réalisé sur le morceau « Mémé » dont je parlais tout à l'heure... On a, un côté cinématographique qui existe. Ce côté, je ne dis pas mélange, mais addition vidéo et musique, ça vous parle ?
Oui.
OK. Alors, vous faites partie d'un collectif, La Houle. Qu'est-ce que La Houle ?
La houle, c'est les petites vagues qui font émerger l'immense vague. Et c'est un collectif duquel je me suis greffée, qui a été créé par Juana Tupper. Elle est metteuse en scène et je suis assistante mise en scène sur sa pièce qui s'appelle Je suis douce. Et c'est un collectif de cinéma, théâtre et performance.
D'accord. Avec un certain nombre de personnes qui donc travaillent avec vous, que vous côtoyez.
Oui.
Ok.
Oui.
La mise en scène, justement, de Je suis douce, un petit mot sur ce travail. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette pièce et que raconte-t-elle? Ça peut intéresser les auditeurs.
Donc Je suis douce, c'est une pièce qui mélange danse, théâtre et performance et qui parle des dictats sociaux et comment ils contraignent les individus et comment chacun et chacune s'en libère à sa façon.
Et, ok.
Et j'ai travaillé avec Juana en tant qu'assistante mise en scène. Et c'est des longues discussions, en fait. Beaucoup de discussions, beaucoup d'observations. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer sur la pièce.
La mise en scène, donc, vous intéresse aussi?
Pas de théâtre. Mais j'ai aimé, en tout cas, voir comment diriger des acteurs, en fait. C'est quelque chose qui, moi, me... Je suis totalement inconnue à la direction d'acteurs et ça m'intéressait de voir comment on les dirige, comment on les perçoit. Enfin, toute cette direction m'intéresse.
Ça a donc été très formateur pour vous.
Oui.
Un élément supplémentaire pour le puzzle qui permet après de se retrouver, en effet, dans le cinéma.
¡Ay, qué bueno!
Alors venons-en à votre film. Pourquoi le titre Seiba ? Que cela signifie-t-il ?
Seiba, c'est... j'ai trouvé ce... C'est un arbre. Et le titre, je l'ai choisi en lisant en fait un livre qui s'appelle « Conte noir de Cuba » de Lydia Cabrera. Et dans ce livre qui recense des contes de Yoruba afro-cubains, il y avait le conte Kanaka et Laura Tignosa, la Ceiba es divina. Et en lisant ce conte, je me suis dit que c'était le titre du film, parce que la Ceiba, c'est ce qui permet de relier le ciel et la terre, et qui réunit les hommes conscients, et ces hommes conscients se réunissent sous la Ceiba pour parler de la disharmonie du monde et envoyer au ciel le message qui se passe sur terre pour créer de l'harmonie et pour créer de l'équilibre.
Je dirais presque tout un programme.
Oui.
Alors l'affiche du film est forte, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'affiche sous les yeux, est-ce que vous pouvez la décrire et nous parler de sa réalisation, de sa création ?
Il y en a deux des affiches. Il y a celle où il y a ma mère et moi qui me portent et on regarde la mer au Malecón. Mm-hmm. Et il y a aussi le ventre d'une femme enceinte et c'est ma mère qui me porte mais en elle. Et il y a des dessins, il y a l'île de Cuba dessinée sur son ventre et une Ceiba dessinée sur son ventre aussi.
Alors pour nos auditeurs, le Malecón, c'est le bord de mer de la Havane. Mm-hmm. Qui donne donc sur l'océan. Que raconte le film ? Quelles séquences pouvons-nous voir dans ce film ?
Alors le film, c'est donc j'ai refait mon arbre généalogique et je raconte à travers certaines personnes de ma famille une histoire de Cuba. Et donc dans ce film, on peut voir des témoignages de mon grand-père, de mes parents, de mes cousins. Mais aussi des archives que mon père a filmées de Balcelos et aussi un témoignage d'un prisonnier politique que j'ai rencontré au parc de Domino à Miami.
Donc vous suivez les Cubains de Cuba et les Cubains de Miami.
Oui.
En quelque sorte, puisque c'est le commun de bon nombre de Cubains de s'être réfugiés après avoir quitté l'île à Miami. Les archives sont familiales, elles traversent l'histoire de Cuba au XXe siècle, comme vous venez de le dire, par exemple les Balseros. Mais ces archives familiales, elles viennent d'où ?
C'est mon père qui avait sa caméra et qui a toujours filmé. Et puis là, il a décidé de filmer mon enfance, ma naissance, et puis aussi ce qui se passait en parallèle dans l'île. Et toutes ces images, en fait, j'ai grandi avec, c'est-à-dire que ça fait partie de mon exil. C'est des images que je voyais pour un peu voyager à Cuba, un peu me rappeler de ce que j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 2 ans, hein, donc pas grand-chose. Mais ce sont des images... c'est des images que mon père a récoltées, je pense, un peu pour se souvenir, pour moi aussi.
Et il a eu raison de les garder, puisque ça donne en effet une dimension tout à fait particulière au film. Votre père, donc, Ricardo Vega, est un réalisateur de renom. Les Français ont pu voir son Fiel Castro, avec le jeu de mots sur Fidel Castro, film sorti en 2009. Que vous a-t-il apporté pour votre film ? Car il est partie prenante de ce film. En dehors des archives.
Oui, mon père il m'a énormément apporté. J'ai grandi avec lui, donc et il m'a montré beaucoup de films. J'ai grandi avec en regardant des films avec lui. On a beaucoup parlé cinéma et en plus pour le film il a monté le film. Il m'a donné des conseils sur la réalisation, sur le montage. Enfin, il a été très présent tout au long du processus de création. Et voilà, ça a été un pilier pour moi et pour mon épanouissement, quoi.
Votre père est donc au générique du film, votre mère apparaît dès les premières images. Ils se sont exilés après l'impossibilité avérée pour eux de vivre dans le Cuba castriste. Comment ont-ils vécu cet exil? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, balayer toutes ces années qu'ils ont passées en dehors de leur pays?
Comment ils l'ont vécu? De mon point de vue, je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de souffrance, de combat, de lutte, de vivre dans un petit Cuba ailleurs aussi, de beaucoup de nostalgie. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un exil. L'exil, c'est beaucoup de combat, beaucoup de lutte et de nostalgie, en fait.
Et de la difficulté à vivre, tout simplement, même si, naturellement, la vie continue et les activités peuvent être très multiples.
Oui, au sein de l'exil de mes parents, je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance et beaucoup de... Et ils ont eu quand même de la chance. Et j'en ai eu aussi parce que ma mère a pu travailler, a pu trouver un travail, mon père aussi. Enfin, on a pu en quelque sorte s'intégrer, être accepté en France. En luttant et en se battant, mais sans trop de difficultés, je pense.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Radio Grand Ciel.
Alors, vous nous avez dit que vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. Comment avez-vous vécu jusqu'à aujourd'hui votre enfance, votre adolescence, vos jeunes années de femme adulte? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, même si ce n'est pas toujours facile de se mettre ainsi en scène? Sur l'enfance, par exemple.
L'enfance, je pense que j'ai une enfance très heureuse, entourée de mes parents. Mais aussi, je pense que j'étais très consciente de l'exil et de ce que ça... qu'il y avait un décalage, en fait. Qu'à la maison, c'était pas pareil qu'à l'école, et que ce décalage-là, il m'a toujours questionnée. Et ça m'a toujours... ça m'a toujours questionnée.
Et dans votre adolescence, est-ce que votre adolescence a été impactée là aussi, ou est-ce qu'avec les années qui passent, étant donné que vous vivez en France et que vous êtes française, la vie a été comme une jeune femme, une jeune fille française?
Dans plein d'aspects, oui, j'ai été comme une jeune fille française, et dans d'autres, je me suis sentie très cubaine et très... très incomprise. C'est les deux, en fait.
Et en tant que femme adulte, si vous voulez, vous envisagez l'avenir comment? Vers Cuba, si la situation change, vers la France, vers les deux, vers d'autres pays? Vous parliez tout à l'heure de Valparaiso, par exemple. Votre maman également connaît bien l'Espagne. Comment vous envisagez, vous, votre vie de femme adulte?
Pour le moment, c'est la France. Puis avec le métier de réalisatrice, mon idéal, ce serait de voyager, de pouvoir découvrir plein de pays différents, à travers des festivals, à travers des tournages, et aussi Cuba. Je pense que c'est important qu'un jour, je retourne à Cuba et que je vois... je retourne vers mes racines.
Il y a donc toujours cet espoir de pouvoir revoir Cuba.
Oui.
Comme pour d'ailleurs bon nombre d'exilés cubains qui... Donc une idée, c'est que le régime change et qu'ils puissent avoir des portes ouvertes qui leur permettent de retrouver leurs racines, tout simplement. Alors quelques mots de la production du film, de sa diffusion. Après la première enthousiasmante et émouvante que nous avons vécue à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Comment vous envisagez la production, maintenant c'est quasiment fait, mais comment vous l'avez envisagé, et puis la diffusion de ce film?
La production, c'est un film qui est autoproduit. Mm-hmm. Donc j'ai aussi fait un crowdfunding, donc j'ai réuni des fonds sur une plateforme. C'est un film autoproduit. Et en ce qui concerne la diffusion, le film a été sélectionné dans un festival à Thessalonique de documentaires. Il va être projeté le 19 mars dans la section Horizon ouvert du festival de Thessalonique.
Un très bon début. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je voudrais revenir sur 3 moments forts du film. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont particulièrement évocateurs. D'abord, votre grand-père et son émotion face à la caméra. Il m'a fait penser à ces exilés à Miami, aux États-Unis, qui ne se sont jamais remis de leur exil forcé. Et malgré tout, cet homme-là, il crève l'écran. Quelques mots sur ce grand-père qui, je pense, compte beaucoup pour vous.
Oui, c'est... il compte beaucoup pour moi parce que il a pas peur de dire ses sentiments, ses émotions, et je pense que c'est pour ça que c'est un personnage fort pour mon film. C'est qu'il parle de ses sentiments, et c'est ça qui fait que c'est fort, je pense.
Il a ému beaucoup de gens dans l'assistance lors de la première projection à la Maison de l'Amérique latine. Cet homme-là, très franchement, quelle dimension, quelle épaisseur, c'est le moins que l'on puisse dire. Et également, on a une scène qui est absolument formidable lorsque l'homme est en train de peindre sa maison qu'il a donc laissée à Cuba. Et instant émotion très forte, parce que cette maison-là, naturellement, bon, à l'heure actuelle, elle doit être occupée par d'autres personnes. Et ça sera difficile de retrouver exactement cette maison quand les portes seront ouvertes à nouveau sur Cuba pour les exilés cubains. Un autre moment fort, c'est l'arbre filmé, là, le travelling circulaire. Quelle signification particulière pour vous qui avez voulu cette séquence ? Vous nous avez expliqué tout à l'heure dans le titre Seiba, mais là il y a une séquence qui est très belle, où on voit c'est votre père qui filme et qui tourne autour de cet arbre. Pourquoi cette scène ? Qu'est-ce qu'elle apporte au spectateur, si vous voulez, de votre film ?
Je voulais raconter aussi toutes les années que mon père a passé à filmer. Mais du coup, là, c'était l'inverse qui se produisait, c'est moi qui le filmais. Et du coup, je voulais le montrer avec une caméra, et je voulais le montrer en train de me filmer, en train de filmer l'équipe du film. Et aussi, bon, après, c'est des choses qui viennent avec des associations d'idées, de mise en scène. Je trouvais que le fait qu'il tourne sur cet arbre qui est déraciné, ça faisait un peu, moi ça me faisait penser à une horloge, le temps qui passe. Et bon, l'arbre déraciné, ça parle de ça va de soi, enfin ça parle.
Les fameuses racines.
Compartiremos todos un mismo sentimiento, aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no, no hay mal que dure 100 años.
troisième séquence qui ne peut laisser les spectateurs indifférents, notamment les spectateurs français qui ont vu dans un certain nombre de reportages les balseros, ceux qui tentaient de fuir vers les États-Unis. Pour vous, ces balseros qui ont une place importante dans le film, ils représentent quoi ?
Pour moi, ils représentent un moment, enfin, il représente comme un moment qui est en lien avec ce que mes parents ont vécu. Donc, comme un mouvement, en fait. Je me reconnais en fait dans leur détresse. Enfin, je reconnais mes parents, je reconnais plein de choses que j'ai pu voir à travers d'autres des amis de mes parents. C'est un temps de l'histoire et ça, pour moi, c'est ce que ça représente. C'est un temps de l'histoire qui est important pour moi, pour mes parents, et qui est fort et qui signifie et que j'avais envie de montrer pour ce film.
Oui, les balseros, ils abandonnent tout. Quoi. Et souvent sans espoir de retour, et souvent avec la mort qui peut intervenir, puisque bon, un certain nombre d'entre eux peuvent se noyer et disparaître. La liberté a un prix, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je voudrais vous faire réagir à deux citations. D'abord, cette phrase de Leonardo Padura, phrase tirée de son dernier roman, Poussière dans le vent, parce que moi je l'ai trouvée très, très intéressante, mais bon, je suis un vieux français et non pas un franco-cubain. Voilà ce que dit Padura. On se fiche à Cuba que le soleil brille, qu'il ne fasse pas trop chaud et que la journée s'annonce splendide. Il y aura toujours quelqu'un à un moment qui viendra tout foutre en l'air. Tu crois que c'est un châtiment historique ? Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là ? Est-ce que le peuple cubain est en quelque sorte abonné au châtiment historique ?
Je pense que l'humanité tout entière, elle est abonnée au châtiment historique et que il n'y a pas que à Cuba que quelqu'un viendra gâcher la fête, c'est partout, quoi.
Donc il y a à la fois de l'optimisme et du pessimisme. On peut être optimiste en se disant tiens voilà une belle journée, mais en se disant bon cette belle journée elle peut être gâchée à un moment donné par quelque action que ce soit. Et dans le monde que nous connaissons, c'est sûr qu'il y a pas mal de journées qui sont gâchées par des gens qu'on aimerait ne pas voir avoir un pouvoir sur nous-mêmes. Deuxième citation, alors cette fois-ci d'Andrei Kourkov, écrivain ukrainien, dans Les abeilles grises, son roman. Et là, c'est une phrase qui, moi, m'a fait réagir parce qu'elle montre ce que peut être la diversité du monde et ce que devrait être le monde avec la juxtaposition d'un certain nombre de populations, de peuples, etc., différents les uns des autres. Alors, la phrase est la suivante. Il est parti, ça, c'est sûr. À Rostov, je crois en Russie, il n'est pas russe, tu vois, mais il n'est pas ukrainien non plus, il est arménien. Et alors, il vivait ici, donc il est des nôtres.
Moi, ce que ça me fait dire, c'est que il suffit pas de se sentir bien n'importe où. Il faut aussi que quand on arrive dans un pays, c'est aussi comment on nous reçoit, comment on est perçu, qui est très important en fait.
Et vous avez l'impression qu'en France, puisque nous sommes en France, on reçoit comment les étrangers qui viennent chez nous, je parle bien donc des réfugiés politiques, d'un certain nombre de réfugiés économiques également, qui arrivent, vous percevez comment ce mouvement, puisque bon, on en parle énormément en ce moment, on est dans une période politique forte où tous les sujets sont mis sur la table, comment vous percevez-vous l'accueil de ces étrangers en France ?
Moi, je pense malheureusement qu'ils sont pas accueillis comme ils devraient être accueillis. Je pense qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de répression. Et je pense que ça dépend beaucoup, cette violence, elle dépend beaucoup de d'où l'on vient. Et oui, elle dépend de d'où l'on vient, qui on est.
Donc, il y a des améliorations à tenter, quoi.
Oui.
Radio Grand Ciel.
Tanto de mí, te le jura que jura. Si pongo mano.
Alors, il y a quelques jours, moi, j'ai vu un film de John Alpert, journaliste indépendant, qui m'a fait penser, alors, dans une autre mesure, à votre film. Le film de Alpert s'appelle « Cuba et le caméraman ». C'est sorti en 2017. Ce film présente trois familles cubaines sur quatre décennies avec le télescopage de leur vie quotidienne, avec la grande histoire, avec un grand H, l'embargo sur la Cuba communiste, la crise des missiles soviétiques installés à Cuba, la période spéciale à la fin de l'URSS, qui tenait à bout de bras l'île, la santé et l'école gratuite, conquête de la Cuba castriste. Qu'est-ce que vous pensez de cette réalité cubaine? Que vous voyez, vous, depuis l'étranger? Alors, je ne vais pas vous faire commenter chacun des éléments de cette histoire sur les 30 dernières années, mais comment vous percevez-vous la réalité cubaine telle qu'elle est à l'heure actuelle, en tant que jeune Française d'origine cubaine?
Moi, je l'aperçois à travers mes cousins, surtout à travers mes parents aussi, mais mes cousins qui ont des amis là-bas, qui envoient aussi, bon, mes parents aussi, mais qui envoient de l'argent à leur famille. Enfin, et je sens que je sens qu'il y a ce qu'on peut lire sur Wikipédia et puis ce qui se passe concrètement, et c'est très subtil en fait, c'est malheureusement c'est une réalité, c'est la misère en fait, et c'est pas que la misère économique, c'est aussi la misère intellectuelle, c'est la misère sociale, enfin. Et ça me fait beaucoup de peine en fait de me dire beaucoup des camarades de classe, de mes cousins et cousines au lycée voient leur avenir, soit ils se lancent à la mer, soit ils se prostituent, et moi ça me fait de la peine, enfin, et je me dis que ça aurait pu être moi, et que c'est une réalité cubaine.
J'ai eu l'occasion d'interroger un certain nombre de jeunes artistes cubains. C'est vrai que c'est la croix et la bannière pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir s'exprimer, que ce soit des peintres, que ce soit des gens qui écrivent des nouvelles, des poèmes, etc. C'est extrêmement compliqué, et c'est vrai que pour un certain nombre d'entre eux, c'est véritablement un avenir complètement bouché, quoi. Vous voyez l'évolution du pays de quelle manière? Est-ce que vous avez une appréciation sur ce qui se passe ces derniers mois? Je ne parle pas de la crise du Covid comme dans tous les pays, mais de ce qui peut être la situation économique, sociale du pays. Est-ce que vous voyez une évolution possible, positive ou pas? Question difficile.
Oui. J'arrive pas du tout à voir du positif, quoi. Pour moi, c'est si je retourne à Cuba et si je vois le pays, je sais que j'ai ce sentiment-là que, et de manière générale pour le monde en général, j'ai pas beaucoup d'espoir, quoi. Mais faire des films, ça me donne de la force. Faire de la musique, ça me donne de la force, mais sinon, il faut lutter, quoi. Il faut continuer de lutter, et c'est ça qui donne de la force aussi.
Dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas l'autorisation de rentrer à Cuba, vous, en tant que fille d'une famille de dissidents, comme on les appelle dans notre France.
Il faudrait que je retourne à l'ambassade. En fait, j'ai l'obligation de si je retourne à Cuba, il faut que je retourne à Cuba avec mon passeport cubain. Je peux pas retourner à Cuba avec mon passeport français ou espagnol. Donc il faudrait que je renouvelle mon passeport cubain, et tout peut arriver. Soit ils acceptent pas de renouveler mon passeport, soit ils acceptent, je prends un billet pour Cuba et ils m'arrêtent. Ils me disent, une fois que j'arrive dans l'île, que je peux pas rentrer, enfin je sais
donc
pas.
Demi-tour,
voilà. Donc je sais pas du tout ce qui pourrait arriver. Tout ce que je sais, c'est que je pense que je serai surveillée.
Oui, sans aucun doute, là, on vous croit, sans aucun problème. Question sur votre avenir immédiat. Vous continuez donc vos études. Est-ce que vous avez des projets musicaux, des projets cinématographiques, des projets d'écriture ou pas?
Oui, bah j'ai Slam.
Oui, dont vous nous avez parlé tout à l'heure en début d'émission.
J'aimerais beaucoup faire cette deuxième partie de Seiba, donc peut-être le filmer le retour, mais ça c'est un projet qui va prendre du temps. Enfin...
Justement, Seiba, j'allais dire première manière, enfin premier épisode, ouais. Ça vous a pris combien de temps?
Ça m'a pris 5 ans.
Oui.
Ce sont des temps de production qui sont longs parce que je suis toute seule à la production, donc ça prend 5 ans, mais ça aurait sûrement pris moins de temps si j'avais été accompagnée par une structure, etc. Mais je suis très contente que ça ait été aussi long et lent parce que j'ai pris le temps de m'instruire autour de Cuba, de poser des questions. Enfin, c'était un temps qui était nécessaire.
Le spectateur peut dire que c'est un projet complètement abouti, ça c'est évident, ça se voit, d'où sa force. Hein, d'où sa force. Hein. C'est pas quelque chose qui, comment dirais-je, sort en 2-3 mouvements pour faire de l'image. Je vous avais demandé une playlist et vous avez choisi dans votre playlist Celia Cruz et Nathy Peluso. Oui. Celia Cruz, pourquoi?
Parce que Celia Cruz, c'est une femme... qui réunit tout le monde, enfin je veux dire qui réunit les plus vieux comme les plus jeunes, et à chaque fois que j'ai écouté Celia Cruz, on était tous et toutes en train de danser, danser sur sa musique. Pour moi c'est ma mère, c'est mon père, c'est mes cousins, c'est ma famille quoi, Celia Cruz.
C'est la grande fédératrice, voilà. En quelque sorte. Et Nathy Peluso, que je ne connaissais pas, Celia Cruz, je connaissais. Nathy Peluso, que j'ai écouté avec plaisir, d'ailleurs.
Nathy Peluso, c'est une rappeuse, chanteuse qui vit en Espagne, mais qui est née en Argentine. Et la chanson Mafiosa, c'est une salsa. Et j'aime beaucoup cette salsa. Je trouve que c'est la meilleure salsa actuelle pour moi.
La danse a l'air de compter beaucoup pour vous.
Oui.
C'est important. Comme d'ailleurs pour bon nombre de Cubains. C'est vrai que c'est une île qui surprend justement ceux qui la connaissent peu. C'est ce côté, en effet, enjoué, ce côté danse, malgré, comme vous disiez tout à l'heure, toute la misère qui peut régner, toutes les difficultés au quotidien, et toutes les luttes qu'un certain nombre de gens sont obligés de mener pour, survivre, en quelque sorte. Bien, Atisluna, merci.
Merci.
Et puis, rendez-vous pour le deuxième épisode de Seiba, alors, dans ces conditions.
J'espère.
Se reverra à ce moment-là.
Merci.
La calidad del cobre est un lipide. Après la tente, elle apparaît derrière 2-3 touristes. Depuis que Cuba l'a quittée, elle a cessé d'être utopiste. Haricots rouges et noirs naissent au creux de ses yeux. Et ma bouche se pose sur sa joue osseuse. Te regalo ron para que bailen tus manos. En el cementerio entenderán el cubano. Escucho temblar tus huesos. Abuela, la tierra es tu yeso. Mémé à la gueule d'un cigare, la peau fripée comme la feuille noire. Le tabac est menu dans cette main du soir qui sert un maigre revenu. Mémé à la gueule d'un cigare, la peau fripée comme la feuille noire. Le tabac est menu dans cette main du soir qui sert un maigre revenu. Yemaya est avec elle, vêtue de velours bleu. Pas même la déesse n'a pu éteindre son feu. Mémé s'assit au bord du lit dans notre grande maison. Une tristesse la saisit, à chaque changement de saison s'attelle. Au repassage et à la cuisine, dans un silence de mort qui me fascine. Un soleil liquide caresse sa peau humide. Un coupeur de canne s'est planqué dans ses rides. Camarera de la morte invoco mil veces. Hoy te sirvo ron en el vaso veo peces. En este bar o en este mar diste la vida entera. Una flor en el ombligo y una tumba en la esfera. Camarera del amor, en este lugar de almas. La muerte no se ve, pero la toco con mis palmas. La muerte no se ve, pero la toco con mis palmas. Mémé à la gueule d'un cigare, la peau fripée comme la feuille noire. Le tabac est menu dans cette main du soir qui sert un maigre revenu. Mémé à la gueule d'un cigare, la peau fripée comme la feuille noire. Le tabac est menu dans cette main du soir qui sert un maigre revenu. Par ici, elle s'est fait tout un tas d'amis et parle à n'importe qui sans complexe. Elle parle fort et seuls les plus coincés se vexent. Dans sa poche, une fiole d'alcool. Elle boit pour les dieux et en oublie son espagnol. Parfois à l'étroit, comme dans un solar. Elle veut aller droit et ne dit mot car Cuba l'accapare. La terre est bleue comme une orange, disait le poète. Mais la pomme ne souhaite qu'une chose dans son sommeil. Une terre bleue comme un mamey. Mémé à la gueule d'un cigare, la peau fripée comme la feuille noire. Le tabac est menu dans cette main du soir qui sert un maigre revenu. Mémé à la gueule d'un cigare, la peau fripée comme la feuille noire. Le tabac est menu dans cette main du soir.